La météo après le journal. France Inter, 8h, à tout à l'heure. Le journal donc, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La loi du plus fort en Israël, élection législative à la une avec l'inoxydable Benjamin Netanyahou dans le rôle du sortant et un général comme alternative de centre-droit, c'est Benny Gantz que les sondages donnent devant Bibi, ce qui n'en fera pas forcément le prochain Premier ministre. Nous serons à Jérusalem dans un instant. Une sortie à tiroir, celle du grand débat. Hier, aujourd'hui, demain, le Premier ministre a parlé et parlera. Mais on attend toujours les annonces d'Emmanuel Macron. Ça commence à faire très long pour l'opposition. On verra ce qu'en dit votre invité, Nicolas.
Qui a organisé le grand débat national, qui a accompagné le président de la République dans son tour de France, Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, invité du grand entretien de la matinale. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter.
À la une également, les retraites et du changement à prévoir aussi pour les pensions de réversion. Cyclistes, gare aux angles morts des camions, les députés proposent des mesures pour vous protéger. Devenez propriétaire d'un manoir avec piscine et tennis pour 13 euros si vous avez de la chance en Dordogne. Enfin, on connaît son Requiem, ses préludes et ses nocturnes, mais Forêt n'avait pas livré tous ces morceaux de pièces inédites à découvrir à la fin du journal.
France Inter.
Des faucons et des colombes, voilà comment se divisait autrefois le paysage politique en Israël. Les colombes ont disparu du devant de la scène comme le rêve de paix avec les Palestiniens. Et pour les législatives du jour, il reste Benjamin Netanyahou, fort de ses 4 mandats et de ses surenchères nationalistes. Face à lui, le centre droit du général Benny Gantz. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour Florence.
Vous êtes le correspondant Étienne de France Inter à Jérusalem. On a tout dit Étienne sur les coups de boutoir de Bibi Netanyahou, sa dernière promesse en date, c'est l'annexion des colonies de Cisjordanie. On connaît moins Benny Gantz. Qui est cet homme, Étienne, et quelles sont ses chances?
Eh ben, c'est un homme encore un peu raide à l'image, vous le disiez, un général, un novice en politique. Il incarne le désir d'alternance en Israël. Son programme manque de relief, mais il fait campagne sur l'union, la probité, la défense de l'état de droit. C'est un anti-Netanyahou. C'est aussi un homme à poigne. Il a dirigé les deux dernières guerres contre Gaza. Il espère créer un effet de choc s'il arrive largement en tête, mais dans les intentions de vote, le camp de la gauche ne dégagerait pas de majorité.
Alors justement, Étienne, ce qui est important en Israël, au-delà des résultats, ce sont les alliances qui sont nouées après les élections. Effectivement, à ce jeu-là, c'est Netanyahou qui a toutes ses chances.
Oui, c'est pour l'instant le scénario le plus probable. Les derniers sondages donnaient une majorité assez nette pour la droite, le camp naturel du Premier ministre. Mais la fiabilité relative, certains partis sont proches du seuil plancher éliminatoire. Et un partenaire à droite menace déjà de remettre en cause l'alliance. Depuis ce week-end, Benjamin Netanyahou dramatise la situation. Il appelle à la mobilisation. La victoire pour lui est une question de survie politique. Il est menacé à court terme par les poursuites judiciaires. Il a tout donné dans cette campagne.
Merci Étienne Monin en direct de Jérusalem où les bureaux de vote sont ouverts depuis 6h ce matin et jusqu'à 21h ce soir. Alors à quoi vont penser les Israéliens en mettant leur bulletin dans les urnes? Les questions sécuritaires ont dominé la campagne, pas le paradoxe économique israélien. Plus de 3% de croissance, un pays parmi les plus innovants au monde. Le chômage là-bas est sous la barre des 4%, pourtant un Israélien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Les oubliés de la croissance, c'est un reportage de Valérie Crova à Tel Aviv.
10h30, les portes du centre La Sova, le rassasié en hébreu, viennent d'ouvrir. Une cinquantaine de personnes se pressent pour manger leur seul repas complet de la journée. Il y a quelques immigrés et beaucoup de personnes en situation précaire, des femmes et des hommes de tous âges, comme cette dame de 73 ans.
Pourquoi je viens ici? Parce qu'à mon âge, on ne peut pas travailler en Israël selon les lois. Et mon revenu provient de la sécurité sociale, c'est pas beaucoup. C'est 3018 shekels.
Environ 750 euros. Le coût de la vie est très élevé en Israël, en particulier les logements. Caissière dans un supermarché, cette autre femme a dû quitter l'appartement qu'elle louait à Tel Aviv.
Tous les ans, les propriétaires me demandent plus d'argent. Et c'est un des problèmes, car le salaire n'augmente pas. Les loyers sont trop élevés, on ne peut pas payer.
Cet ancien chauffeur de taxi de 60 ans n'ira pas voter aujourd'hui.
Je ne vote pour aucun parti car je n'ai rien reçu de ce pays. Et je dors dans ma voiture, ça fait 6 mois. Ils ne me trouvent pas de travail. Je vis avec 2000 shekels par mois. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va à la mer.
Israël abandonne ses gens, nous confie un volontaire. Et aucun dirigeant ne vient ici pour voir combien La situation est grave. Tel Aviv, Hélène Langlois, Valérie Crova, France Inter.
Et pour tout comprendre de ces élections israéliennes, rendez-vous sur franceinter.fr. En Algérie, qui pour prendre l'intérim d'Abdelaziz Bouteflika? C'est aujourd'hui que les parlementaires sont censés confier les clés du pays au président du Conseil de la Nation, le Sénat algérien. Mais un autre nom pourrait sortir du chapeau, tant l'homme est détesté par les foules, jugé trop proche du système Bouteflika.
Il est 8h05, Florence. En France, après le débat... Le débat.
Et après les contributions des Français présentées hier avec l'accent mis sur les baisses d'impôts, le discours d'Édouard Philippe devant l'Assemblée cet après-midi, suivi d'un débat sans vote, rebelote demain au Sénat, en sachant que les annonces concrètes sont réservées à Emmanuel Macron sans doute la semaine prochaine. Tout cela commence à faire long, trop long pour l'opposition, Maxence Lambrec.
Ils n'ont pas du tout apprécié cette phrase du Premier ministre hier lors de la restitution.
Cet agenda des solutions, il obéira forcément à plusieurs échelles de temps.
Sous-entendu, soyez patient.
Ça me fait penser à un film qui existait quand j'étais enfant qui s'appelait L'Histoire sans fin.
Julien Aubert, député LR.
Il y a une espèce de teasing, on fait d'abord le diagnostic, après on fait l'agenda des solutions.
Et tout ça cache, selon lui, des arbitrages très délicats.
Il y a sans doute des mesures très dures à prendre, politiquement très courageuses, et donc on se donne du temps, histoire de masquer l'embarras.
Il y a urgence, répond le patron des communistes Fabien Roussel, qui voit, lui, dans cette attente, des motivations électorales.
Ce serait scandaleux que le gouvernement repousse même, après les élections européennes, les véritables mesures répondant à cette crise qui traverse notre pays.
À côté, l'insoumis Éric Coquerel n'attend rien de ce débat d'aujourd'hui et prédit la suite.
Monsieur Macron, dans quelques jours, va essayer de nous persuader que sa politique est la bonne et que ce qui était déjà prévu répond aux attentes des Français, ce que je ne crois pas.
Les annonces présidentielles devraient intervenir la semaine prochaine.
Maxence Lambrec. Et la réforme des retraites, quand est-ce qu'elle sort entre Emmanuel Macron, qui avait promis de ne pas toucher à l'âge de départ. Ses ministres envisageant le contraire entre deux rétropédalages. Jean-Paul Delevoye, chargé du dossier, lui continue à consulter. Et en ce moment, ce sont les pensions de réversion qui sont sur la table. Sarah Lemoine, plusieurs pistes sont évoquées.
Il y a déjà deux certitudes. Les pensions de réversion ne vont pas disparaître dans la future réforme des retraites. Elles auront toujours vocation à garantir le niveau de vie d'un veuf ou d'une veuve après le décès du conjoint. Mais quel niveau? C'est toute la question, alors qu'il s'agit de construire une règle commune pour les salariés, les fonctionnaires et les indépendants qui aujourd'hui ne bénéficient pas tous de la réversion, ou alors pas de la même façon, puisqu'il existe des conditions d'âge, de ressources, de remariage, voire de durée de mariage différentes selon les régimes. Ce que préconise l'entourage du haut commissaire, c'est un changement de logique. Demain, on ne calculerait plus la pension de réversion à partir de la retraite du conjoint décédé, mais à partir du montant global des pensions du couple. Cela favoriserait celui qui touche la plus petite retraite au sein des ménages où il existe de gros écarts. Un scénario dans lequel il n'y aurait plus de conditions de ressources, tout le monde pourrait donc en bénéficier. À condition toutefois d'être mariée, la piste d'un élargissement au couple pacsé n'ayant pas été retenue à ce stade.
Elle dit avoir reçu un coup de matraque sur la tête, témoignage de Geneviève Leguet, blessée à Nice pendant une manifestation. Cette femme de 72 ans est tombée pendant une charge de la police. Et ce matin, Mediapart met le doigt sur un conflit d'intérêts dans l'enquête menée sur cette affaire. Selon le site, la commissaire en chef de la sûreté départementale chargée de faire la lumière sur ce qui s'est passé est la compagne du commissaire qui a dirigé les opérations de maintien de l'ordre ce 23 mars à Nice. La nouvelle enquête Benalla ouverte par le parquet de Paris, elle vise notamment le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, soupçonné de faux témoignages pendant les auditions du Sénat. Ce sont les sénateurs qui ont saisi la justice.
8h09, une affaire de famille maintenant.
Un couple, leur fils et sa compagne, convoqués au tribunal de Bobigny aujourd'hui, accusés d'avoir logé des dizaines d'Indiens entassés dans des conditions indignes en banlieue parisienne. Cela porte un nom, l'Aurélie Carive, c'est la division pavillonnaire.
Cela ne se passait pas dans des immeubles vieillissants, mais dans des pavillons à chaque fois situés dans de tranquilles quartiers résidentiels. L'enquête démarre grâce à un signalement. Il y a un peu plus d'un an, la police découvre que s'entassent dans une maison du Bourget, y compris dans le garage et sous les combles, plus de 50 personnes en situation irrégulière. Elles sont toutes de nationalité indienne, tout comme les propriétaires de la maison, âgés de 64 et de 57 ans. Dans une autre propriété qui leur appartient à Drancy, ce sont 14 sans-papiers qui occupent des logements non déclarés. Le fils du couple et sa compagne s'adonnaient, semble-t-il, à la même activité, cette fois dans un pavillon de Bobigny. Un business qui rapportait autour de 250 000 euros par an, selon l'enquête de police. 120 000 euros en liquide ont d'ailleurs été saisis. Interpellés au mois d'octobre, les quatre suspects ont été placés sous contrôle judiciaire jusqu'à leur procès aujourd'hui. L'habitat indigne représenterait plus de 7% du parc immobilier privé en Seine-Saint-Denis. 4% à l'échelle de l'Île-de-France.
Vous roulez en vélo juste derrière un camion. Attention, il ne vous voit pas, pas plus. Si vous êtes juste à côté de sa cabine, les angles morts des poids lourds, vrai danger pour les cyclistes. Les députés s'en emparent aujourd'hui, un an après l'accident qui a tué une assistante parlementaire. Ils sont 177 de tous bords qui vont déposer des amendements. Parmi eux, Janine Dubié, c'est pour elle que travaillait la jeune assistante.
Moi, j'étais dans l'hémicycle, on est venu me chercher, ça a été vécu en fait en direct par tous les gens qui étaient là. Elle travaillait avec moi depuis plus de 4 ans, donc elle était connue. Et je pense que cette action qui est menée aujourd'hui pour éviter que ça ne se reproduise, tout le monde se sent concerné. Voilà, ça va se traduire par la présentation de 2 amendements de matérialiser en fait par des autocollants colorés, voire fluorescents, les angles morts des poids lourds, que ça puisse attirer l'attention du cycliste et que le cycliste réalise que à cet endroit-là, le chauffeur de camion ne peut pas le voir. Le deuxième amendement, c'est laisser la possibilité à un maire d'interdire en fait la circulation des poids lourds qui ne sont pas équipés d'un équipement sonore, un capteur qui dit attention, vous approchez votre véhicule et puis tout, et puis plus vous approchez et ensuite ça reste de façon continue. C'est transpartisan et c'est aussi la force de ces amendements.
Voilà, Jacqueline Dubié, députée du groupe Liberté et Territoire avec Julie Pietri. Ça ressemble à une carte de la bonne paye, le fameux jeu de société Jour de chance. Devenez propriétaire d'un manoir en Dordogne avec piscine et tennis pour 13 euros. Ça n'est pas une blague, mais un vrai jeu concours. C'est un couple qui l'a lancé pour vendre son château près de Sarlat, estimé à 1,5 million d'euros. Pour cela, pour le gagner, ce château, il faut répondre à quelques questions et être patient. Le jeu est ouvert jusqu'à la fin de l'année, Mathilde Dehimi.
D'abord sceptiques, les habitants de Sénac et Saint-Julien se sont pris à rêver comme Fred.
Je vais certainement y participer. Je ne l'ai pas fait encore, mais il y a des chances que je le fasse. Ouais. Qu'est-ce qui me plairait? Tout, le site il est magnifique. C'est que la pierre en plus. Les bâtiments ils sont tous en pierre. C'est une belle propriété.
Une propriété de 7 hectares, une maison de dépendance, une écurie, un terrain de tennis et une piscine estimée à 1,5 million d'euros. Brigitte, 65 ans, propriétaire, préfère elle surtout son jardin.
On a un étang, on voit les chevreuils, on entend les oiseaux, les piquets-pêches, les huppes. C'est reposant, c'est paisible.
La maison a peu de succès via les agences immobilières. Brigitte et son mari imaginent alors un jeu concours. 13 euros l'entrée, 2 questions de culture générale facile et un juste prix à trouver.
Vous avez la vitrine à estimer. Alors la vitrine se compose d'un bracelet en or 18 carats, de souliers et une reliure fait par des créateurs. Et la personne qui sera au plus près gagnera la maison. Les gens sont tellement heureux de pouvoir accéder à une maison comme la nôtre et peut-être que demain ça sera eux.
Mais pour céder le domaine de la Guérinière, il faut 150 000 joueurs. Ils sont déjà 12 000 en 6 jours, européens mais aussi américains ou australiens. Les propriétaires se donnent jusqu'au 1er décembre pour réussir leur pari.
La défense de Carlos Ghosn, réinterpellé la semaine dernière à Tokyo, il avait confié avant son arrestation une vidéo à sa femme qui est depuis ce week-end en France, vidéo que ses avocats sont en train de diffuser. Je suis innocent, il dit l'ancien patron de Renault-Nissan qui parle d'un complot et d'un coup de poignard dans le dos. On l'entendra très certainement dans le journal de 9h. Ça sent bon, ça sent très bon pour les Bleus ES à 2 mois de la Coupe du Monde de foot en France. Les filles de l'équipe de France ont battu les Danoises hier 4-0. Dernier match avant la liste des joueuses retenues pour le Mondial. Ensuite, il en restera 2 face à la Thaïlande le 25 mai, puis face à la Chine le 31 mai à Créteil. Enfin, quel bonheur de découvrir des œuvres d'un compositeur disparu. Quel bonheur, Nicolas, d'écouter ces 2 pièces inédites de Gabriel Fauré, enregistrées par le pianiste Nicolas Stavi. Ces partitions, jusque-là, étaient inconnues. Elles ont été retrouvées par des musicologues aux États-Unis à l'université de Yale. Stéphane Capron.
Personne n'est capable d'expliquer comment ces partitions ont atterri dans la bibliothèque Benec de l'université de Yale. Le travail de fourmi des musicologues Jean-Michel Nectou et Jean-Pierre Bartoli a permis de mettre la main sur ces 2 œuvres de jeunesse que Fauré avait décidé de ne pas publier. Mais le pianiste Nicolas Stavi a considéré qu'elles n'étaient pas mineures et qu'elles devaient entrer au répertoire.
C'est quand même très très étonnant de contribuer à faire découvrir, c'est pas redécouvrir, de faire découvrir au public cette partition qui a peut-être été joué une fois par Fauré ou par son entourage. Donc c'est évidemment un immense bonheur, un immense honneur et quelque chose de très émouvant. Hein. Cette petite sonate de jeunesse d'un jeune compositeur, mais déjà maître de son écriture, parce que finalement, il a certes 17 ans, 18 ans, c'est une sonate dans le style classique, mais elle est immédiatement contemporaine des trois romances sans parole, bien connues, éditées 20 ans plus tard, mais qui ont été aussi écrites alors qu'il avait 18 ans, et qui montrent un Fauré déjà maître de son écriture, de son univers sonore.
À ses œuvres de jeunesse, Nicolas Stavy a souhaité associer l'une des œuvres majeures de Fauré, le 13e Nocturne, dans un album qui dévoile désormais toutes les facettes du compositeur.
Et si vous êtes à Paris ce soir et qu'il reste de la place, Stéphane Capron vous conseille d'aller voir le concert de lancement de ce disque de Fauré à l'auditorium de la Bibliothèque Nationale de France à 18h30.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Marie-Pierre, pas mal de grisailles matinales.
Mais oui, de la Bretagne à la vallée de la Garonne. Et ailleurs, la journée débute sous un ciel aussi bien gris, car on reste toujours sous l'influence de cette dépression qui est arrivée hier et le ciel devient assez chaotique. Des Pyrénées, des plaines d'Occitanie en remontant sur le massif central, sur le nord-est, entre éclaircies et passages nuageux qui seront accompagnés aussi d'averses. Le temps est plus sec par contre près de l'Atlantique et de la Bretagne au Cotentin, puis des Alpes en descendant sur le littoral méditerranéen. Et ce matin, il fait un peu plus froid vers l'est où il gèle encore dans le Jura. Hier, il fait 2 en Lozère, 5 à Nantes, 6 à Bayonne, 8 à Château, à Montpellier, 9 à Dunkerque, 11 à Paris comme à Toulon et à Bastia, il fait déjà 14.
Et dans l'après-midi, ce sera de plus en plus instable.
Oui, avec un ciel plus menaçant, avec coups de tonnerre, même de la grêle, des Pyrénées, de l'Occitanie en remontant vers la Bourgogne, la région parisienne et des Hauts-de-France à l'Alsace, avec toujours aussi des averses. Autour de la Méditerranée, le ciel va se couvrir et devenir orageux ce soir. Puis côté température, on sera tout juste de saison, plus bas 12 à Dunkerque et à Langres, 13 à Lille, 14 à Amiens, il fera 15 à Metz, pas de jaloux, 16 à Paris, Toulouse ou Nice. Comptez 17 à Bourg-en-Bresse et à Bordeaux, à Ajaccio également, 19 à Grenoble et Bastia.
Merci Marie-Pierre Planchon.